Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why, this is why, this is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries créatives numériques jusqu'à 20h depuis le studio 107 de la Maison de la Radio. Bonsoir à tous. En ce week-end de Pentecôte, nous allons nous intéresser ce soir de manière un peu intemporelle à la question de la représentation du numérique et d'Internet dans la culture. Internet en littérature, en musique, dans le cinéma, le jeu vidéo, les arts plastiques, c'est un passage en revue subjectif que nous vous proposons ce soir. Que nous vous proposons en compagnie de nos chroniqueurs, notamment chroniqueur habituel, Anaïs Ginori de La Repubblica. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Emmanuel Paquette de L'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir
Frédéric. Olivier Tesquet de Télérama. Bonsoir.
Bonsoir.
Enfin Jean-Baptiste Souffron de Technicard. Bonsoir.
Bonsoir.
À 19h20, l'alphabet numérique, notre séquence décryptage du web. Ce soir, on s'intéressera à la lettre A. A comme adolescence, ce sera l'occasion de parler d'un ouvrage intitulé American Girls de Nancy Jocelle. C'est un livre qui concerne notamment les jeunes filles, les teenagers en l'occurrence, et leur vie secrète sur les réseaux sociaux. On écoutera également au cours de cette émission Lola Marche, via Internet, ainsi que Stuck in the Sound. Tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h, une émission exceptionnellement enregistrée ce soir. Mais vous pouvez néanmoins nous suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook, en podcast et donc sur France Culture. Alors il y a différentes manières d'appréhender la question de la représentation d'Internet dans les industries créatives et la culture. Notamment, Internet peut être un personnage, ça peut être un espace, un sujet, pourquoi pas un régime autoritaire, une addiction, un système, une culture. Et plutôt que de passer cette émission au fond à voir des thèmes qui vont se succéder comme la littérature, le cinéma, le jeu vidéo, etc., peut-être pourrons-nous essayer de trouver des thèmes transversaux, Olivier Tesquet, Anaïs Ginori, tout ça montrant d'ailleurs que Internet envahit non seulement nos vies, mais également nos cultures.
Oui, alors, moi, je trouve que ce qui vient un peu spontanément, je vais peut-être dire ça par tropisme, mais c'est la façon dont les industries culturelles, au sens un peu large, peuvent s'emparer d'Internet comme un espace, que ce soit un espace qui est fantasmé, qui est parallèle au monde réel, que ce soit un espace intégré au monde réel. Alors, on a des exemples dans le cinéma, on a des exemples dans la littérature. Je vais pas tout dévoiler tout de suite, mais il y a beaucoup de choses, et effectivement, sur une approche assez transversale, même si c'est vrai qu'on a tendance tout de suite à se focaliser un peu sur l'audiovisuel, et la façon dont le cinéma et les séries se sont emparés de ces sujets-là. Mais c'est vrai que la notion d'espace qui ramène finalement Internet à sa dimension physique aussi.
Physique et fantasmée en même temps.
Physique et fantasmée, c'est toujours l'espèce de paradoxe entre les deux. C'est soit définir les contours d'un lieu qui n'existe pas, soit justement le lui donner une espèce de vie comme ça. Alors on le retrouve notamment dans l'art, dans le surveillance art qu'on évoquera un peu après probablement. Cette question-là.
Jean-Baptiste Souffron.
Oui, quand on évoque la figure du numérique ou d'Internet dans les arts aujourd'hui, moi je vois trois séquences qui me semblent essentielles. Il y a ce qu'on commence à voir apparaître de plus en plus, c'est une forme de... On aurait parlé de convergence, c'est pas forcément nouveau, on aurait parlé de convergence il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais en fait, on voit des gens qui sont à la fois dans l'objet numérique, le sujet numérique, la forme devient numérique, on se met à parler numérique entre gens qui font du numérique, et les formes d'expression elles-mêmes étant numériques parlent aussi de numérique, enfin c'est quelque chose qui se met à perspirer de partout, comme un ouroboros, c'est très impressionnant, et ça marche. Et puis, il y a un deuxième axe, moi, qui m'a toujours fasciné, et qui en ce moment prend de plus en plus d'ampleur, c'est celui des fans, qui sont de plus en plus omniprésents, et qui ont désormais un impact industriel, dont on finalement qu'on comprend quasiment comme acquis.
Alors on y reviendra en parlant des jeunes filles tout à l'heure, qui est un public bien précis.
Et là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est forcément nouveau. Ça avait été tellement bien décrit par James Surowiecki dans son bouquin La sagesse des foules, au tournant des années 2000. Donc,
il y a longtemps, finalement, à l'âge de numérique,
c'est
il y a longtemps.
Vu, mais c'est maintenant que finalement ça devient naturel. Et puis, le troisième axe qui, je pense, inquiète tout le monde, c'est celui du numérique, mais en tant finalement, maintenant qu'il est partout et qu'il est naturel, ben, une certaine inquiétude qui se fait jour, et c'est vrai que dans beaucoup de médias, la représentation du numérique devient meilleure, plus précise, plus fine, plus simple, mais aussi beaucoup plus ambigu, le présentant comme quelque chose qui est parfois très dangereux.
Anaïs Génori.
Oui, c'est vrai que moi aussi, dans l'exploration et la recherche que j'ai fait pour cette émission, j'ai trouvé que souvent, c'est en tout cas dans certains romans et films, enfin dans ce que j'ai remémoré pour en parler, c'est plutôt cet aspect-là, qui va vers la pathologie, cette expression numérique,
C'est une addiction, par exemple.
Ça peut devenir une addiction, une obsession, quelque chose qui nous entraîne et dont on perd le contrôle. Et ça vaut pour les jeunes, mais ça vaut à tout âge.
Pour nous aussi, désormais, pour les adultes.
Oui. Ces nouvelles règles de communication changent aussi les règles de comment on raconte une histoire, un roman, un film. Et ça, je trouve, c'est très intéressant.
Emmanuel Paquette.
Oui, moi, ce que j'ai pu percevoir dans des romans que j'ai pu lire ou même dans des films de cinéma ou dans des séries télé de ces dernières années, c'est une forme de basculement sur l'objet qu'est Internet. Un objet qui était vécu un peu comme une utopie, un objet libertaire dans lequel on pouvait distribuer, que des petits pouvaient s'attaquer à des géants, les faire vaciller, les faire tomber. Ça peut être des démocrates vis-à-vis de régimes autoritaires, par exemple, ou même de petites sociétés vis-à-vis de multinationales. Il y a eu beaucoup de films ou de romans sur ce thème-là. Un autre thème, donc on a basculé de l'utopie libertaire d'Internet.
La fin de l'innocence, finalement.
La fin de l'innocence vers
c'est
une dystopie.
C'est l'après-Snowden, on pourrait presque dire.
L'après-Snowden, exactement, vers une dystopie où là, effectivement, les nouvelles technologies, notamment Internet, incarnent plutôt un moyen de contrôle, de surveillance des populations. Et en fin de compte, cette liberté qui était donnée se retourne contre ceux-mêmes qui essayaient de l'employer à des fins libertaires.
Olivier Tesquet.
Ouais, alors c'est marrant parce que cet aspect dystopique, en même temps, on le retrouve aussi dans toute une littérature et tout un corpus de science-fiction dès les années 80. Mais je vais reprendre l'exemple de William Gibson, qui est un peu l'inventeur de ce courant qu'on nomme le cyberpunk, qui se caractérise toujours par des ambiances très sombres, post-apocalyptiques, on va dire. Et quand il forge le cyberpunk, notamment avec ce livre de 1984 qui s'appelle Neuromancien, et qui forge par ailleurs le terme de cyberespace, puisque le terme de cyberespace a été inventé par William Gibson, hein, c'est une espèce de mot valise qui s'est ensuite démocratisé avant de tomber en désuétude, parce qu'aujourd'hui plus personne n'emploie ce mot-là.
Et Second Life est presque mort avec son espace.
On y reviendra aussi, parce que Second Life recoupe plutôt un autre mot que j'évoquerai après. Et dans Neuromancien, alors sans dévoiler l'intrigue pour ceux qui auraient envie de le lire, on est quand même face à quelqu'un qui résout des enquêtes en enquêtant comme ça dans le cyberespace, et puis un jour il décide de trahir son patron, il n'a plus accès à ce cyberespace, donc on rejoint la dimension quasi-pathologique, c'est-à-dire qu'il se retrouve privé de sa raison d'être, et il doit s'allier à des gens un peu étranges et à la vertu discutable pour justement pouvoir retourner dans ce cyberespace et trouver un peu la clé de l'intrigue. Donc on était déjà finalement à ce moment-là quand même dans la construction d'un internet, d'une chose numérique, même si on l'appelait pas internet au sens formel du terme, qui était déjà assez dystopique, même si effectivement on le sent bien, et notamment dans des industries populaires qui sont plus des sous-genres de la science-fiction, par exemple dans les séries télé ou au cinéma, que depuis l'affaire Snowden, on a effectivement une prise de conscience assez générale des potentialités de surveillance, notamment d'internet, qui du coup sont abordées sous cet angle-là en se nourrissant de l'actualité.
Jean-Baptiste Souffon.
Oui, je pense que ça va même au-delà de la question de la surveillance ou pas. Pendant longtemps, il y a eu une opposition assez étrange entre, d'un côté, la vision utopiste positive qui était celle du mythe de la Silicon Valley, des créateurs d'entreprises, du self-made man, et la dystopie qui était celle des auteurs de science-fiction qui inventaient cet univers et qui se projetaient dans le temps pour voir à quoi il allait ressembler. Et en fait, là récemment, il commence à y avoir de fortes controverses aux États-Unis mais aussi en France sur le fait que le self-made man numérique, eh bien, on en revient, il n'existe pas tant que ça. La plupart des gens qui réussissent dans le numérique aujourd'hui sont des gens qui ont de gros moyens, des parents riches, qui profitent d'investisseurs, qui eux-mêmes sont dans des boucles d'investissement. Et là aussi, en fait, on commence à avoir une espèce de, passez-moi l'expression, une forme de gueule de bois, et à commencer à regretter, avec en plus des gens qui expliquent qu'en réalité c'est naturel et que c'est normal que ça se passe comme ça.
Le roman dont vous parliez, Olivier Tesquet, de William Gibson, s'intitule Neuromancien en 1984. Alors on a un peu fait finalement le sommaire qui va nous occuper tout au long de cette émission. On va peut-être commencer par Internet comme personnage, ensuite l'espace, puis on évoluera vers Internet dans, comme système, comme culture, comme décor, pourquoi pas donc comme addiction. Vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h. Ce soir, on parle des représentations d'Internet dans la culture.
Can't help but feel so far from you. Yet I'm in the terminal. This probably looks so typical. I probably should be going home, but you make me wanna stay. And I love your visual, so let's just keep it digital. But baby, can you break me up
Vous êtes dans Soft Power sur France Culture à l'instant, The Internet, le titre Gay B, et spécialement évidemment pour cette émission ce soir, le titre est adapté. Internet et sa représentation dans la culture, dans les industries créatives, dans l'art aussi. Internet, ça peut être un personnage, pour commencer, on l'a dit au début de cette émission, on le retrouve à travers une série de films, à travers des jeux vidéo, à travers aussi des séries télévisées. Commençons peut-être par ce premier sujet, Emmanuel Paquette.
Oui, alors il peut prendre différentes formes. Là, bientôt, un film va sortir en salle tiré d'un manga qui s'appelle Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Il se trouve que dans Ghost in the Shell, donc c'est un peu une là aussi une dystopie. Donc dans l'avenir, les gens se connectent directement à Internet en se câblant via son cerveau, donc pour naviguer dans le cyberespace. Et il se trouve qu'une intelligence artificielle née dans le cyberespace qui s'appelle donc le marionnettiste et qui prend possession des humains qui se connectent pour en faire un peu ses poupées, pour en faire un peu ses jouets. Et à un moment donné, ce marionnettiste s'allie avec des humains pour tenter d'arriver à un stade, disons, une génération future d'êtres humains mêlant intelligence artificielle et humanité. Et donc, on voit qu'on part d'un système qui est l'Internet tel qu'on connaît aujourd'hui et qui renverse les valeurs, c'est-à-dire aujourd'hui on utilise Internet et demain Internet nous utilisera. En tout cas, c'est ce qui est décrit dans Ghost in the Shell et c'est ce qu'on va voir donc au cinéma dans les prochains mois sur les écrans.
Dans un monde parallèle, on peut citer Ex Machina en 2015 où Caleb, en l'occurrence le programmeur du film, rencontre Ava, qui est un personnage féminin qui est une intelligence artificielle. Dans un autre registre aussi, il y a bien sûr Hair de Spike Jonze, où là on tombe amoureux, enfin le personnage principal tombe amoureux d'un ordinateur, mais au fond, on pourrait dire qu'il tombe amoureux d'Internet, plus globalement.
Là-dessus, on pourrait rassembler tout ça sous une espèce de taxonomie un peu plus large, qui est la représentation de l'intelligence artificielle au cinéma. C'est-à-dire que quand on dit Internet en personnage, on pense à des machines qui soient capables d'avoir des sentiments, capables de réfléchir, d'être éventuellement intelligentes. Et on a là aussi un corpus assez dense, que ça aille de HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace, à Blade Runner, en passant par Chappie, en passant par la série Will Humans, série danoise, où on a à chaque fois l'incarnation dans des machines qui sont plus ou moins anthropomorphes. Hein. HAL, c'est jamais qu'une diode électroluminescente rouge avec une voix un peu robotique.
I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. And I want to help you.
Alors que dans Will Humans, par exemple, on a des robots qui ont une forme très humaine, qui ressemblent un peu à des Ken ou à des Barbie. Et on a dans toute cette production, notamment cinématographique et dans les séries, une espèce de métonymie où l'Internet s'incarne comme ça à travers des personnages qui sont censés représenter cette espèce de chose numérique qui tout à coup prend une forme humaine ou un peu moins et qui est dotée d'intelligence. Et effectivement, on a quand même un corpus assez dense là-dessus.
Jean-Baptiste Souffron.
Oui, il y a toujours une là aussi une ambiguïté très forte entre d'un côté une représentation dangereuse et une représentation positive. Dans le registre des représentations positives, il y a un auteur qui est mort récemment, mais qui est sans doute celui qui a le plus travaillé sur l'intelligence artificielle, c'est Ian Banks, avec sa série de la culture, dans laquelle des intelligences artificielles gigantesques, qui pour le coup n'ont pas vraiment d'avatar humain, qui ne ressemblent pas à des humains, qui ne pensent pas comme des humains.
On trouve par exemple chez Stanislas Lem, l'intelligence artificielle n'a pas non plus de forme humaine, que ce soit dans Solaris, l'Invincible, etc. On est face à cette espèce de nuée invisible, et toute l'intrigue repose
et dans lesquelles il n'y a pas non plus de difficultés entre les humains et ces intelligences artificielles qui sont là, qui vivent leur vie les uns à côté des autres, en s'entraidant, faisant des choses différentes, ainsi de suite. Mais l'un des
c'est presque l'étape ultime. Le robot disparaît, oui. L'internet disparaît puisqu'il est là dans la vie normale pratiquement.
Et finalement, ces incarnations peuvent prendre des formes extrêmement diverses, une boule, un objet du quotidien, quelque chose qui tout d'un coup se met à parler, interagir avec les gens qui sont autour, sans pour autant qu'on puisse vraiment savoir de quelle intelligence artificielle il s'agit, pourquoi, est-ce qu'il est contrôlé à distance, est-ce que c'est quelque chose qui est plus local. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même assez peu travaillé cette question. Alors, vous avez dû voir il y a peu de temps l'intelligence artificielle que Microsoft a voulu mettre en ligne. Ils ont voulu mettre ce qu'on appelle un bot, un petit robot qui fait des discussions sur Twitter. C'est des choses qui existent depuis longtemps, hein, depuis les années 80, voilà. Et l'expérience a été tragique parce que le bot, en discutant avec des internautes, s'est mis à devenir fasciste, à misogyne, à insulter les gens, à expliquer qu'en fait Hitler était sans doute un grand homme de l'histoire. Et là, on s'est rendu compte que bon, si les ingénieurs de Microsoft n'ont pas réussi aussi rapidement, aussi facilement à mettre des règles,
des garde-fous
derrière ce bot, ils espéraient en faire quelque chose de créatif et montrer que ça allait être une perspective, enfin qu'on allait avoir une intelligence qui crée quelque chose, qui fabrique. Mais c'est peut-être aussi, s'ils ont eu tant de mal, c'est parce qu'on n'a pas encore de bonne représentation de ce que c'est finalement que l'intelligence artificielle. Ça reste très abstrait et les seuls qu'on en ait, c'est soit Terminator d'un côté, soit Blade Runner de l'autre, sans doute.
Une réaction, Anaïs Guinori ?
Oui, moi j'ai aussi pensé à Internet comme un personnage, mais comme aussi une représentation de ce personnage qui peut être faite dans les arts plastiques. Alors il y a des artistes qui travaillent sur ça, notamment un artiste grec qui s'appelle Miltos Maneta, qui a vécu à Rome et là est basé à Los Angeles. Et lui, il peint des toiles ou avec des écrans. Donc c'est des mosaïques d'écran ou même il s'inspire des câbles, des tablettes, des téléphones, des jeux vidéo ou des personnes qui jouent avec les jeux vidéo. Donc voilà, c'est quelque chose de, on va dire, de plus classique comme représentation d'Internet, mais en même temps ça cherche aussi voilà cet univers dans lequel on bouge et qui est un peu insaisissable.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors c'est un personnage aussi insaisissable parce que je ne sais pas si tout le monde se souvient de Matrix et ce personnage central qui ressemble à Vinton Cerf, donc un des créateurs d'Internet, habillé de blanc avec une grande barbe et donc qui apparaît le personnage qui contrôle en partie les clés au sein de la grande matrice. Et donc on voit bien que la représentation du coup d'un être de l'Internet, de la matrice, se symbolise dans une forme de dieu, une forme de déicité, puisque là on voit ce personnage donc avec une grande barbe et habillé de blanc, qui est dans un lieu totalement virtuel et qui est inatteignable ou quasi inatteignable. Et on voit qu'à un moment donné, on retrouve les vieilles icônes, les vieilles images qui sont dans le subconscient pour essayer d'incarner ce que peut être Internet, ce que peut être un réseau informatique intelligent.
Olivier Tesquet.
Ouais, pour rebondir sur ce que disaient à la fois Jean-Baptiste et Emmanuel, c'est vrai qu'on a cette espèce de dichotomie dans laquelle il n'y a pas d'entre-deux, où d'un côté on a toute une rhétorique de l'apprentissage dans les films où on voit des intelligences artificielles. Je pense à Chappie par exemple, où on a cette espèce de société là aussi dystopique en Afrique du Sud où le crime est endémique et où une société a réussi à obtenir le monopole pour construire des robots policiers qui ressemblent un peu à des Robocop, et puis tout à coup un jeune programmeur décide d'en piquer un pour le reprogrammer. Et donc finalement au début c'est une espèce de boîte vide qui est comme un nouveau-né et qui apprend progressivement. Donc il y a quand même toute toute une production là aussi assez dense là-dessus, hein, même un film comme Wall-E pourrait rentrer là-dedans. Et de l'autre, on a la représentation de l'intelligence artificielle et de la chose numérique intelligente comme totalement immanente, descendant de quelque chose de presque divin, alors que ce soit dans Matrix, mais même dans Blade Runner, même s'il y a cette société qui construit donc les androïdes, on a cette espèce quand même de frontière qui s'efface entre l'humain et la machine, à tel point qu'on n'arrive plus très bien à distinguer l'un de l'autre. On se demande toujours si dans Blade Runner, le plus humain des deux, c'est Descartes, le chasseur de réplicantes, ou Rachel, le robot dont il tombe finalement amoureux. Et entre les deux, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas trouvé la représentation un peu dépassionnée, presque, d'une intelligence artificielle qui, aujourd'hui, dans la vie réelle, n'est pas encore capable d'être intelligente et qui est sûrement pas issue, comme ça, d'une trajectoire quasi divine.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
On pourrait citer dans les séries, par exemple, Mister Robot en 2015. Dans l'occurrence, Internet est un justicier, Mister Robot est un mystérieux anarchiste. Et le héros, c'est Elliot Alderson, jeune informaticien spécialisé en sécurité informatique. Mais il est dépressif et paranoïaque et il se met à hacker les comptes des gens un peu à la Don Quichotte, je dirais presque modernisé. On aurait pu citer Hackers de Michael Mann, dont le titre original d'ailleurs peut-être était plus parlant, à savoir Black Hat. Ou encore des films comme Ennemi d'État de Tony Scott, Person of Interest dans les séries télévisées de TF1 par exemple, Jean-Baptiste Souffron.
Ce qui se passe récemment, et c'est très clair dans Mister Robot, même si ça remonte sans doute à Blade Runner, parce que dans Blade Runner, Descartes, en réalité, on ne sait pas s'il est humain ou réplicant, et on comprend à la fin qu'il est probablement plus réplicant que humain. Et dans Mister Robot, c'est vraiment exemplifié par le fait que lui-même ne sait pas qui il est. Étant malade mental, il ne sait même pas. Il croit, enfin, en plus, le narrateur est menteur dans Mister Robot. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux.
D'où l'image de Don Quichotte, d'une certaine manière.
Je veux pas raconter trop parce que c'est une série extraordinaire qui mérite d'être découverte. Mais, réellement, et ça, dès le départ, on comprend qu'il est fou et qu'il ne sait pas qui il est. Et que les autres, non plus, ne savent pas vraiment qui il est. Et en fait, du coup, le point clé du débat sur la représentation de l'intelligence artificielle ne devient plus tellement de savoir à quoi elle ressemble ou ce qu'elle fait, mais qui la contrôle. Et par qui elle est contrôlée, et surtout avec une inquiétude très forte, qui est celle qu'on passe dans une logique finalement bourdieusienne, dans laquelle l'intelligence ne servirait qu'à renforcer ceux qui sont déjà puissants et à les aider encore plus. Et c'est vrai non seulement dans Mister Robot, mais c'est vrai également dans d'autres séries comme dans Billions par exemple, ou même dans celles qui retracent les mythes fondateurs de la vallée comme Halt and Catch Fire. On retrouve toujours maintenant cette idée principale de qui contrôle l'intelligence artificielle.
Le Mister Robot à Pierre Bourdieu.
Sachant que c'était la question qui était posée par Marvin Minsky, l'inventeur de l'intelligence artificielle. Le diable dans la boîte, c'est comme ça qu'il appelait ça. Qui est le diable dans la boîte ?
Monsieur Théodore Twombly, bienvenue dans le monde du premier système d'exploitation à intelligence artificielle. Nous aimerions vous poser quelques questions.
Ok.
Êtes-vous un être social ou antisocial ?
Je crois que je n'ai pas été très social dernièrement.
Comment décririez-vous votre relation avec votre mère ? Merci. Veuillez attendre pendant que votre système d'exploitation est initialisé.
Bonjour, je suis là.
Salut.
Salut, je suis Samantha. Bonjour Théodore.
Bonjour.
Vous avez une réunion dans 5 minutes. Vous voulez essayer de sortir du lit ?
Vous êtes trop drôle.
Je suis drôle, bien, ok. Je veux apprendre tout sur tout.
J'aime votre façon de voir le monde.
Votre nouvelle relation.
De quoi vous parlez ?
J'ai vu dans vos courriels que vous vous êtes séparés.
Vous êtes culotté, je trouve.
Alors, c'était comment être marié ?
Voilà, à l'instant, un extrait de la bande originale en version française d'ailleurs de Hair de Spike Jones.
Soft Power. L'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et alors ce soir, nous évoquons la lettre A comme adolescence. Et nous allons nous intéresser essentiellement à la visibilité, à la vie sociale et à la vie secrète finalement des teenagers, des jeunes sur les réseaux sociaux à partir d'un ouvrage signé Nancy Jo Sals, publié récemment en anglais chez Knopf et qui s'intitule American Girls, les réseaux sociaux et la vie secrète des teenagers. Alors dans ce livre, qui fait beaucoup parler de lui aux États-Unis, Nancy Jo Sals, à partir d'un grand nombre d'entretiens avec des jeunes filles, souvent âgées des 13 ans, de 13 à 19 ans, et qu'elle a interviewées dans plus d'une dizaine d'États américains, elle raconte comment leur vie a évolué à travers les selfies, à travers les applications de rencontres. Les jeunes filles de cet âge vivent, et elle le dirait presque vivent intégralement, je la cite, sur leur smartphone. Alors elle s'intéresse à leurs relations amoureuses, y compris au cinéma porno, notamment dans le dialogue avec les garçons. Elle s'intéresse aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer, au dialogue politique. Elle montre aussi comment, dans un certain nombre de registres, Internet a profondément modifié, notamment les réseaux sociaux et les messageries instantanées, a profondément modifié leur vie. Alors on va évoquer et discuter de ces différents sujets avec ce soir Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, Anaïs Ginori de La Repubblica, Olivier Tesquet de Télérama et Jean-Baptiste Souffron de Technicart. Les jeunes et les réseaux sociaux, ça vous inspire quoi, à la fois par rapport à ce que vous connaissez de vos propres enfants ou neveux ou cousins, et comment est-ce que vous réagissez, Anaïs Ginori peut-être, pour commencer?
Oui, c'est vrai que c'est assez secret dans le sens où une fois que on a 12 ou 13 ans et on a finalement le téléphone et l'accès à Internet, les parents perdent totalement le contrôle. Alors après, on peut éventuellement essayer de surveiller, de contrôler, mais c'est un pari complètement fou et perdu d'avance. Donc, en tout cas, ce qu'on observe, et c'est moi en tant que parent, mais aussi comme journaliste, je vois que tout se déroule sur Internet, mais vraiment, même une relation commence sur Internet, se déroule sur Internet et finit sur Internet. Enfin, sur Internet, quand je dis sur Internet, c'est
sur les réseaux sociaux, sur Messenger, sur WhatsApp, voilà, etc.
C'est surtout sur les messageries, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Et on peut vraiment presque ne pas se rencontrer, ou même quand ils se rencontrent, ne pas aborder certaines questions qui ne se font que à travers ce genre de communication. Et c'est vrai que même souvent, une approche sexuelle est de ce type. Donc, ce que dans la vie, jusqu'à une génération, ça se passait
dans une discothèque, dans un café, dans
maintenant,
un
maintenant c'est vraiment Instagram, Snapchat, WhatsApp, et il y a aussi justement ce sexting avec des
donc non pas un texto mais non, un texto à caractère sexuel, notamment sur Snapchat,
oui, qui devient pour certains et certaines ça peut être aussi choquant, compliqué à gérer, subi d'une manière aussi pas toujours heureuse, donc c'est un sujet fort aussi à affronter.
Jean-Baptiste Souffron.
Et parfaitement, c'est souvent très difficile parce qu'ils sont sous la double dictature d'une part de la transparence généralisée et d'autre part de l'effet de réseau qui fait que les modèles qu'on leur imposait autrefois, le modèle Hockey Podium, aujourd'hui joue 10 000 fois plus fort et 10 000 fois plus violemment sur Internet. Mais pour autant, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, les ados et les post-ados ont l'air de réussir à s'en emparer et à apprivoiser cette nouvelle façon de fonctionner.
Sans protéger, à leur façon.
Sans protéger. Moi, j'ai l'impression qu'ils le font d'abord par la meilleure compréhension et sans doute par plus d'humour. La meilleure compréhension, c'est cette jeune fille qui était devenue une Insta-modèle, une Australienne. Elle posait des photos d'elle-même sur Instagram où elle était très jolie, où elle dévoilait un corps très jeune, etc. Et elle avait des millions de followers. Et puis un jour, elle a craqué. Elle a dit « J'en ai marre. La vérité, c'est que je suis pas comme ça. Je suis pas si bien faite ni rien. Je fais 150 photos à la suite et je finis par poster la meilleure. Et c'est comme ça que je construis mes followers. Et j'en ai marre de vendre des marques. Et voilà, il faut que vous sachiez que c'est pas vrai. » Et l'autre, moi, que j'ai toujours trouvé très intéressant depuis plusieurs années et dont le succès ne se dément pas, c'est le fameux compte Instagram Rich Kids of Instagram, où finalement les jeunes se saisissent et se moquent des enfants de riches sur Instagram qui étalent leur nouvelle voiture, leur voyage, leur richesse à la face de gens qui sont souvent beaucoup plus pauvres qu'eux. Et ils s'en sortent par l'humour.
Dans son livre, Nancy Jossal, ça porte un diagnostic très, très sévère, très inquiétant. Alors peut-être est-ce celui d'une adulte qui a du mal à suivre ses enfants, mais dans American Girls, en tout cas, elle s'inquiète et elle est très inquiète sur ce qui est en train de se passer, Olivier Tesquet.
Oui, mais parce que je crois qu'il y a un hiatus culturel qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle grammaire qui se met en place chez ces adolescents, qui redéfinissent à la fois des moyens de communiquer, c'est-à-dire qu'on passe de la communication verbale à la communication non-verbale, on envoie des émojis, on sort d'une société de l'écrit pour être plus dans une société de l'image qui en plus est instantanée, donc échappe forcément de plus en plus aux adultes et aux parents. Et au-delà de ça, il y a une redéfinition même de la notion que nous on aurait de vie privée, par exemple. C'est-à-dire que la notion de vie privée, qui est une notion assez récente de droit américain, qui finalement le droit d'être laissé tranquille, les adolescents réécrivent leur propre modalité de cette vie privée. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Dana Boyd qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui notamment évoque des espaces semi-publics, c'est-à-dire que les adolescents créent des espèces de bulles presque dans lesquelles ils communiquent entre eux selon des modalités qu'ils ont eux-mêmes établies. Et donc forcément, les adultes et les parents sont assez démunis face à ces évolutions.
Donc vous seriez moins inquiet, plus optimiste vous-même.
Non, je pense que c'est l'évolution assez naturel des choses et des usages.
Qui est ni bonne ni mauvaise en soi, ça va dépendre de comment...
Qui est ni bonne ni mauvaise, tout dépend ce qu'on en fait. Ce qui est sûr que dans une perception d'adulte, c'est nécessairement inquiétant parce que ça leur échappe. Et en plus, d'un point de vue de parent, ce que je ne suis pas, il y a forcément l'idée qu'on a plus justement le contrôle sur sa progéniture qui tout à coup s'autonomise à la fois à travers les outils et aussi à travers les usages. Donc c'est doublement inquiétant.
En tant que parent, Emmanuel Paquette veut réagir, journaliste à l'Express.
Non, mais c'est vrai qu'il faut revenir aussi aux usages et aux outils. Il faut voir que les premiers smartphones permettant d'aller sur Internet sont arrivés en 2007, avec l'avènement de l'iPhone. Aujourd'hui, il se trouve qu'avec des équipementiers chinois qui arrivent, on peut avoir un smartphone à un prix relativement abordable, notamment pour cette génération-là. Si on ajoute à cela des forfaits pour accéder à Internet aussi abordables, le fait que aujourd'hui, le seuil pour accéder à ce type de technologie est relativement bas. En plus, vous ajoutez les outils de communication qui, eux, sont gratuits.
WhatsApp, Messenger ou Snapchat.
Donc ça devient accessible maintenant à des adolescents qui, avant, ne pouvaient pas. Avant, il fallait passer par l'ordinateur familial qui était dans le salon ou dans le bureau, donc avec les parents derrière ou autour. Maintenant, c'est fini via les smartphones. Les enfants, les adolescents peuvent l'utiliser dans leur chambre, peuvent l'utiliser à l'extérieur. Donc, la notion de contrôle des parents s'efface totalement avec l'outil et puis surtout la facilité d'accès en fait à ces outils puisqu'ils deviennent peu onéreux. Et puis de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a un phénomène de rattrapage au niveau des hommes politiques puisque des lois partout sont votées sur la planète pour essayer de lutter ce qu'on appelle le revenge porn, le fait qu'à un moment donné, quand il y a une rupture adolescente entre une fille et un garçon, de temps à autre, pas tout le temps, mais de temps à autre, l'homme ou la fille peut se venger en diffusant des photos intimes très largement sur Internet et ça peut vraiment nuire à des jeunes. Certains peuvent être poussés au suicide. Donc de ce point de vue-là, il y a des cas récents en France. C'est pas la majorité, loin s'en faut. Mais il se trouve que ces abus-là commencent à être punis par la loi, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Et souvent retirés immédiatement par Facebook ou par Instagram. Mais
quand c'est possible, ouais. Mais effectivement, de temps en temps, ça peut être reposté et donc ça peut recommencer et affecter énormément des adolescents.
Un mot peut-être sur le selfie qui est dans un monde de moins en moins selfless. On est présent. Alors c'est vrai d'Instagram évidemment, c'est vrai plus globalement de Facebook, de Messenger, etc. Comme si c'était une sorte de nouvelle culture, une omniprésence. Enfin, ces pages Facebook où on a une succession, un continu pratiquement de photos de celui qui possède le compte et de ses amis. Jean-Baptiste Souffrant.
Ce qui est incroyable, c'est la vitesse à laquelle le selfie est devenu un genre à part entière, avec ses sous-catégories. Il faut bien voir que avant, finalement, ça a commencé à apparaître avec Instagram. Puis, très rapidement, les adolescents ont eu envie d'avoir un mécanisme qui leur permet d'envoyer des photos qui s'auto-effacent, notamment pour pouvoir s'envoyer des sextos, des choses comme ça.
Donc là, c'est Snapchat.
C'est Snapchat qui apparaît. Aujourd'hui, ils aiment rajouter des emojis, les modifier. C'est des choses qui existaient déjà dans d'autres pays. Les Japonais
notamment
connaissent
en Corée du Sud, au Japon.
En Japon, en Corée du Sud, les pulikula qui permettent aux jeunes depuis les années 80 de venir au cours d'une soirée. Mais ça se présente plus sous la forme d'une borne comme un photomaton. Vous prenez en photo avec votre fiancé ou votre et puis vous rajoutez des petits cœurs, des petits soleils, ça fait des effets, etc. Et en fait, ces différentes formes ont commencé à se mixer les unes les autres et on continue à en voir arriver tout le temps. parfois même, y compris des choses qui sont assez...
C'est quand même un montre très auto-centré, très self-centered, pour le dire en anglais.
Pour vous montrer à quel point ça peut même être extrêmement auto-centré, voire une espèce de sous-culture, les gens ont oublié, mais au moment où Instagram apparaît, quasiment en même temps, était apparu Charoulette. Je ne sais pas si les gens se rappellent de Charoulette, mais qui permettait comme ça de cliquer et de voir des inconnus qui étaient en train de vous parler ou de vous montrer des portraits d'eux-mêmes, etc.
Parfois sexuels, mais cela étant...
Cela étant,
ça n'a pas beaucoup... Le modèle économique a été difficile à trouver. Aujourd'hui, c'est un site qui a disparu.
Ça n'a pas eu mais ça a eu une grande influence, en réalité.
Olivier Tesquet.
Non, moi, ce qui me surprend dans le selfie, c'est qu'on est typiquement dans un moyen d'expression ou une nouvelle grammaire qui a été largement colonisée par les adolescents et qui ensuite, par un effet de tache d'huile s'est propagé bien au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez plus un homme.
Un journaliste de Télérama, il fait des selfies.
Moi, je suis encore considéré comme un jeune, donc ça, je suis à l'ultime frontière.
Ça c'est grâce à la casquette N.
Aujourd'hui, on n'a plus une personnalité, un homme politique, une star, etc., qui se plie pas aussi à ces codes-là. Donc, il y a un renversement total de la prescription où normalement c'est un usage qu'on impose et puis finalement après les gens s'en saisissent. Là, c'est la foule qui a fini par imposer cet usage, les adolescents étant les premiers d'entre eux, et qui ensuite a été récupéré par plein d'autres gens, ce qui prouve que cette nouvelle grammaire peut aussi être disséminée, et pas forcément aussi inquiétante que ça.
Pour terminer sur la vie sociale, la vie secrète des adolescents sur les réseaux sociaux, on observe aussi une évolution très significative. Il y a quelques années, on était sur Internet, on lisait des sites, on suivait des blogs. Peu à peu, on a basculé sur les réseaux sociaux, donc avec la victoire finalement que peu prédisait, mais malgré tout, de Facebook et de ses alliés, à savoir Instagram d'abord, qui appartient à Facebook. Et puis, peu à peu, on a une évolution qui se passe aujourd'hui sur les messageries instantanées. Alors, on est encore sur Facebook à travers WhatsApp, on l'est à travers Messenger, mais il y a aussi Snapchat. Comme si les contenus eux-mêmes changeaient et se passait quelque chose. C'est une troisième révolution, si on peut dire, Emmanuel Paquette, sur ces secteurs.
Oui, alors, il faut voir que tous ces outils de communication ou même des réseaux sociaux, c'est une forme de gargantua numérique. Ils ont besoin d'être nourris et nourris par l'attention des gens qui s'y connectent. Donc cette nourriture, ça vient de photos, ça vient de posts, mais pour faire en sorte que les gens reviennent, il faut aussi, dans les moments de calme, entre guillemets, leur apporter quelque chose. Donc l'information peut être un moyen, c'est ce que les Américains appellent le stickiness, c'est le fait de coller à ces réseaux sociaux et ne plus s'en détacher.
C'est là où on voit que sur Snapchat aujourd'hui, grâce à Discover, qui est une forme de complément de Snapchat, on peut lire des articles de presse, on peut avoir dans des constructions très spécifiques, une création très particulière, faite par CNN, faite par un certain nombre d'hommes politiques ou de médias, mais c'est comme si les messageries devenaient des médias eux aussi.
Des médias et surtout qui sont recommandés par ses amis ou ses proches, qui sont likés, recommandés et donc qui alimentent le fil d'actualité qui ne cesse de s'enrichir perpétuellement pour attirer l'attention.
Olivier Tesquet.
Et ça va crescendo parce qu'on a de plus en plus de médias qui développent des chatbots, de nouveau, des petits
donc
programmes,
des petits robots
avec qui on peut dialoguer, interagir
automatiquement,
sur Messenger. Ouais. Alors, avec des réussites diverses, on va dire, parce que j'ai été obligé de bloquer celui du Wall Street Journal qui me harcelait en pleine nuit en m'envoyant les cours du Nasdaq, ce qui était proprement insoutenable et exaspérant, mais ça montre bien qu'on est dans une logique de silo. Moi, je me souviens, il y avait une étude qui avait été menée dans un pays asiatique, je saurais plus me souvenir lequel, mais qui demandait finalement à la population combien de personnes avaient accès à Internet et combien de personnes avaient accès à Facebook. Et on avait eu cette drôle de surprise de voir que plus de personnes disaient pouvoir se connecter à Facebook que de personnes qui se connectaient à Internet. Donc par un effet de superposition, Facebook devenait Internet, qui est du coup un silo duquel on sort jamais, et à travers ces outils qui sont développés, c'est-à-dire qu'on incite l'internaute à ne plus quitter la plateforme où il pourra trouver tout ce qu'il a envie, que ce soit des informations, que ce soit s'il a besoin de réserver des billets pour un concert ou je ne sais quoi. Et donc on a un phénomène d'enclos comme ça, numérique, qui est en train de se créer.
Je renvoie à la lecture de ce livre de Nancy Jo Sells, non encore traduit et publié chez Knopf, American Girls, la vie sociale et la vie secrète des teenagers. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et référents sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power. Vous pouvez également vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur le site franceculture.fr. Et pour les anciens mots de cet alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. Vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h sur France Culture. Ce soir, on s'intéresse aux représentations de la culture, de l'art et des industries créatives, notamment autour d'Internet. Comment Internet est présent dans les films, dans les séries télévisées, dans la littérature aussi. On se retrouve pour ce sujet juste après une pause musicale. Your Mind, Lola Marsh. Your Mind, Lola Marsh. Vous pouvez retrouver chaque semaine ces sites, l'ensemble de la programmation musicale sur notre compte Deezer et également vous abonner à notre podcast Soft Power qui est entièrement dédié à la classe créative et à la révolution numérique par abonnement gratuitement bien sûr sur iTunes ou sur le site franceculture.fr Soft Power.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur France Culture ce soir pour parler des représentations d'Internet dans la culture, dans les industries créatives, le cas échéant aussi dans un certain nombre de réseaux sociaux. Anaïs Ginori est journaliste à La Républica, Emmanuel Paquette à L'Express, Olivier Tesquet à Télérama, Jean-Baptiste Souffron à Technicart. On est ensemble avec cette équipe de chroniqueurs réguliers dans cette émission Soft Power. Alors, on a parlé tout à l'heure d'Internet comme personnage. Maintenant, évoquons Internet comme espace avant de terminer tout à l'heure avec Internet comme sujet, comme langage, Internet comme espace, Olivier Tesquet.
Je trouve que c'est notamment intéressant dans la littérature. Alors j'évoquais William Gibson tout à l'heure avec cette notion de cyberespace. Il y en a une qui est assez voisine, qui est le métavers qui a été créé par Neil Stephenson, qui est un autre grand auteur de SF.
Notamment dans le livre Le Samouraï Virtuel.
Le Samouraï Virtuel.
1992.
En 92. Et donc en fait, le métavers, c'est une préfiguration de ce que sera Second Life quelques années plus tard. C'est-à-dire que c'est un monde parallèle qui a ses normes, qui a ses codes, qui a ses,
où l'on peut habiter,
échanges, où l'on peut habiter, etc. Et on est dans la construction de cette Internet en, à la fois en zone parallèle et pour reprendre un peu la rhétorique d'Akimbe, où on a une zone autonome temporaire, voilà, qui se crée comme ça parallèlement à un monde réel.
Donc fantasmé en l'occurrence.
Qui est fantasmé et qui se retrouvera quelques années plus tard. Moi, je vois par exemple dans la Matrice, dans Matrix, là aussi une espèce de déclinaison de ce métavers où on a finalement le monde dans lequel on vit et en dessous ou à côté, on aurait cet autre monde qui serait accessible par différents canaux en se commutant, toujours avec une identité comme ça un peu scientiste et très très technologique. Et je trouve que c'est assez emblématique de justement la façon dont la littérature, en l'occurrence, peut prendre possession d'Internet et de la chose numérique pour en faire une zone habitable, quelque part. Oui.
Jean-Baptiste Souffron.
Oui, Internet et le numérique comme sujet, comme lieu, c'est quelque chose qui commence à se retrouver de plus en plus dans la littérature. Un bon exemple, à mon sens, c'est le dernier prix Hugo, un double titre d'ailleurs. Il s'appelle Three Body Problem, c'est un livre d'un Chinois qui a été traduit en anglais extrêmement récemment. Là déjà, c'est probablement quelque chose qui n'aurait pas été possible sans la globalisation numérique. Je crois même que c'est peut-être le premier auteur étranger non-américain à gagner un Hugo. Son livre, c'est un livre sur une histoire d'invasion par des extraterrestres qui viennent de loin, mais ils sont déjà présents sur Terre, disons, pour surveiller ce qui se passe avant d'arriver. Ils font toutes leurs réunions, ils s'entretiennent avec leurs adversaires, ils travaillent dans un univers virtuel qui rappelle fortement World of Warcraft, sauf qu'il se situe en Chine et dans l'époque médiévale
chinoise. World of Warcraft a été longtemps interdit.
Absolument. Et une bonne partie du roman se passe en réalité donc dans un jeu virtuel.
Alors on retrouve aussi le territoire ou l'espace d'une manière encore plus sublimée, par exemple évidemment chez David Foster Wallace dans son livre L'Infini Comédie, traduit seulement en 2015, donc en l'occurrence 20 ans après sa parution aux États-Unis, où finalement Internet n'est pas présent mais présent partout, comme si c'était un univers, une forme de sérendipité d'écriture. Alors on a beaucoup dit évidemment que c'était le Ulysse de la geek génération, même si peut-être comme le livre de Joyce, peu l'ont lu, même si beaucoup en parlent. En tout cas les geeks ont adopté cet écrivain américain qui est mort, qui s'est suicidé, comme on sait, et d'une certaine manière, les gens se sont appropriés ce livre touffu, divisé en tant de petits chapitres denses, compliqués, constitués de petits îlots, qu'on peut lire séparément, dans un ordre d'ailleurs qu'on peut recréer. Et puis on peut citer d'autres exemples. The Correction de Jonathan Franzen était aussi dans cet univers-là, même si on sait que Franzen a écrit des articles, je pense à Imperial Bedroom dans le New Yorker, où il racontait la question de la privacy, la disparition de la vie privée à l'âge digital, ou encore Pynchon, bien sûr, Thomas Pynchon, formidable écrivain américain qui a publié ce roman séminal sur nos sujets, Bleeding Edge. C'était en 2013, traduit en français sous le titre Fond perdu, Emmanuel Paquette.
Oui, vous auriez pu aussi parler de Dave Eggers avec Le Cercle, puisque là, pour le coup...
Là, c'est la métaphore de Google, quasiment.
Google, Facebook, etc. Puisqu'à la fin, Le Cercle, alors je ne vais pas trop raconter, surtout si les gens veulent le dire, mais l'idée c'est que...
Traduit aussi en retard, seulement en 2016,
en France, et dont le film doit sortir cette année, normalement. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces deux espaces qui vivent en parallèle, donc d'un côté Internet et le monde réel, à un moment donné fusionnent et ne font plus qu'un. Et en réalité, Internet englobe la réalité.
Là, c'est aussi une dystopie, c'est le Orwell 2016.
Exactement, mais pour donner un exemple, et c'est quelque chose qui pourrait arriver demain, c'est pour pouvoir voter et s'inscrire sur les listes électorales, il faut absolument avoir un compte de Circle, donc c'est comme s'il fallait avoir un compte Facebook pour pouvoir voter.
Et puis les hommes politiques ont leur petite caméra GoPro qui les suit partout.
Exactement.
Pour être sûr que c'est la transparence absolue de l'homme politique. On sait ce qu'il fait à tout moment.
Les pots de vin, les lobbies, etc.
Anaïs Ginori.
Oui, pour le rapport à la littérature dont parlait Olivier tout à l'heure, il y a un très beau livre qui est sorti en Italie récemment. Un auteur qui s'appelle Tommaso Pincio, c'est un pseudonyme, c'est un pseudonyme en l'honneur de Thomas
Pynchon.
Pynchon, et le vrai nom c'est Marco Colapietro.
Le titre s'appelle Panorama.
Voilà, Panorama. Et en fait, Panorama, c'est le nom d'un réseau social dont parle le livre. C'est le personnage principal, c'est un homme qui vit dans une époque, donc c'est une autre époque qu'on imagine comme ça, lointaine, mais qui ressemble quand même à la nôtre. Et dans cette époque, on ne lit plus. Et ce personnage, Ottavio, est le seul homme qui continue à lire. Et il est une célébrité, tout le monde devient assez reading parce que c'est l'homme qui lit encore des livres et qui... à ce goût de la lecture, et finalement il est agressé dans la rue pendant qu'il est justement en train de le lire par une bande. Il a une longue convalescence et à la fin de cet accident, il ne peut plus lire. Donc lui aussi, il perd le don, le goût de la lecture, et il finit, grâce à un ami, dans ce système Panorama, dans ce réseau social. Et c'est là justement que Tommaso Pinch raconte comment Panorama, c'est en fait c'est l'idée que on devient tous comme ça, comme un paysage. On est dans ce réseau social où chacun se met en scène et on est plus que un point de détail dans un paysage. Et c'est ce qui se passe aussi au personnage principal du roman, qui finalement se met à écrire dans le réseau social, mais il écrit pendant 4 ans à une femme dont il tombe amoureux. Je vous dis pas la fin, mais enfin, disons, ça se finit très mal parce que justement, il a perdu ce rapport à la lecture et ça donne aussi cette idée de la dématérialisation de la littérature, de ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est très, très poétique et beau.
Panorama, donc, de Tommaso Pinch. On dira jamais à quel point, finalement, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, bien sûr, 1984 d'Orwell, ont été des livres extrêmement prémonitoires sur tous ces sujets, même si, bien sûr, ils n'évoquaient pas Internet en tant que tel. Sur Internet, comme lieu de projection fantasmagorique, on peut aussi citer le dernier roman de Camille Laurence, Celle que vous croyez, paru chez Gallimard.
Et j'ajoute Black Mirror, je crois que c'est le deuxième épisode de la première saison, où on est typiquement...
Là, on est dans la série télévisée.
Hein. Dans un monde où, finalement, on sait plus très bien ce qui relève du monde réel, habitable et considéré comme normal, et ce qui relève d'un monde fantasmé alors qu'il est transformé en une espèce de grand jeu de télé-réalité, donc ça joue un peu aussi avec ces codes-là, et qui pour le coup est assez franchement dystopique et inquiétant. Et on a vraiment cet effacement de frontières où on ne sait plus très bien faire la différence entre le réel et le virtuel, ce qui semble être une préoccupation qui agite beaucoup les scénaristes depuis quelques années.
Oui, cette problématique de faire la différence entre le réel et le virtuel, elle ressort de plus en plus, mais là, depuis quelques temps, et aux États-Unis, dans le secteur de la science-fiction, elle est même vécue directement par les auteurs, avec une polémique qui a eu lieu à l'occasion des derniers Hugo Awards, enfin qui a lieu depuis 3 ans, avec ce qu'on appelle la campagne des Sad Puppies, où, je ne sais pas si vous suivez un peu l'évolution de la littérature de science-fiction américaine, mais depuis longtemps, il y a une science-fiction, disons, de type social, avec une attention au genre, avec une attention au rôle de la femme, etc. Et vous avez, en réaction à cela, tout un tas de lecteurs et d'autres auteurs qui ont dit non, la science-fiction, c'est du western, c'est des hommes, ça doit être quelque chose de dur, c'est la frontière, revenons-en aux fondamentaux. Et en fait, comme le savent la plupart des artistes aujourd'hui, leur vie en ligne, c'est aussi leur vie réelle. Et les fans de science-fiction américains ont commencé à se mobiliser en ligne, à lancer une campagne qui s'appelle donc Sad Puppies, dans laquelle ils se sont arrangés pour que les nominations aux Hugo Awards ne soient plus que des nominations de romans et d'auteurs réactionnaires. Ce qui a complètement perturbé les votes depuis 3 ans, à tel point que cette année, pour la première fois, de nombreuses catégories n'ont pas pu être adoptées parce que les choix qui étaient proposés ont été refusés par le jury. Et là, on voit un champ où le virtuel et le réel se mêlent directement, ont des influences l'un sur l'autre, où on est forcé de se plonger dedans, et où les auteurs eux-mêmes ont été forcés d'aller se confronter à leurs fans dans leur environnement en ligne pour pouvoir essayer de les convaincre de changer d'avis, d'arrêter de se comporter comme ça, et de reprendre la main.
See, I usually do this kind of thing from my computer, but this time I wanted to do it AFK. In person. Trying to work on my social anxiety. But there's always the threat of you fleeing after I call you out. You know, you tell your sysadmin to take your servers down, wipe all the data. So I made sure to include the current time and location on my anonymous tip.
Wait, hold on. I'll give you the money. I'll pay you. How much do you want? I'll pay you.
That's the part you were wrong about, Rohit. I don't give a shit about money.
À l'instant, un extrait du premier épisode de la première saison de Mr. Robot, scène dans laquelle on voit le héros, le personnage d'Eliot, interprété par Rémi Malek, aller trouver un propriétaire de café dont il a découvert par ses talents de hacker être à la tête d'un site pédophile en ligne. Cette émission touche à sa fin. On va peut-être conclure et terminer chacun vers une sorte de dégagement pour ouvrir un peu le sujet vers d'autres perspectives. À l'instant, je parlais de quelqu'un qui poursuivait un propriétaire de café. On pourrait citer aussi cette femme qui se laisse aller à la jalousie avec, pour point de départ, par la consultation des réseaux sociaux, Anaïs Génori.
Oui, c'est ce roman de Helen Stancanelli qui s'appelle La Femmina Nuda, la femme nue, qui vient de sortir et qui est d'ailleurs candidat au Premio Strega, c'est le plus important prix littéraire qu'il y a en Italie. Et c'est l'histoire de Anna qui espionne son fiancé, enfin qui vient de la quitter. Elle rentre dans son Facebook, mais après elle rentre aussi dans son téléphone et elle trouve le moyen de l'espionner. Alors avec des systèmes très sophistiqués, elle utilise le trouver iPhone, donc elle se connecte sur l'iPhone de son homme et elle réussit comme ça à le suivre et ça devient une espèce de descente aux enfers à travers la jalousie, avec une obsession de tout savoir, de tout voir. Elle voit les photos justement que son homme s'échange avec sa maîtresse et voilà, ça rend beaucoup cette idée qu'on peut sombrer très facilement dans une pulsion qui a toujours existé, comme la jalousie, mais d'une manière nouvelle. Et,
le livre s'appelle La Femmina Nuda, la femme nue, hein, donc d'Elena Scancanelli. On pourrait citer aussi, on aurait pu citer bien sûr The Social Network de David Fincher, le film aux 3 Oscars basé sur l'histoire de Facebook et de Mark Zuckerberg. Là, en l'occurrence, c'était Internet vraiment tout, le personnage, le sujet, l'histoire, et même parfois comme langage, très beau film au passage. Olivier Tesquet, pour terminer.
Oui, mais j'évoquerai le surveillance art, peut-être, qui est une dimension qu'on a assez peu.
L'art de la surveillance.
Voilà, on a beaucoup parlé et de littérature et de production audiovisuelle. Dans l'art, ça se matérialise sous cette forme-là, qui charrie beaucoup un discours de dénonciation des dispositifs de surveillance. Alors, il y a un exemple assez récent de quelqu'un qui s'appelle Trevor Paglen, qui est un géographe de formation et qui, depuis des années, s'attache en fait à révéler les zones grises du gouvernement américain. Donc, on lui doit notamment des séries de photos prises de nuit, l'hélicoptère en très très haute définition de la NSA. Il a capturé des images où on voit les satellites espions dans le ciel. Là, sa dernière série, c'est une série de photos sur les câbles sous-marins, ce qui redonne là aussi finalement une dimension physique et qui vient s'inscrire dans une histoire un peu plus longue, qui est effectivement la manière dont les artistes réinvestissent presque l'espace public à travers des dispositifs de surveillance qui les jalonnent. Donc on avait par exemple dans les années 90 les Surveillance Camera Players qui rejouaient 1984, c'est pas un hasard.
Très brièvement, Jean-Baptiste Souffron.
Oh non, moi je renverrai juste les gens vers un Kickstarter pour un documentaire qui s'appelle Mother to Earth, qui retrace la traduction par des fans du jeu Mother 3 de Nintendo aux États-Unis, des gens qui s'étaient auto-organisés par Internet et qui maintenant parlent d'eux-mêmes sur Internet en utilisant Internet, avec le génial Steve Demeter.
Voilà, on se quitte avec Stuck in the Sound, Miracle, pour terminer Soft Power ce soir. Tour d'horizon non exhaustif, mais d'un grand nombre de films, de livres, de séries télévisées, etc., dont on a parlé ce soir. Si vous voulez retrouver tous les titres qui ont fait l'objet d'une discussion au cours de cette émission Soft Power, vous pouvez les retrouver sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur notre article dédié à l'ensemble de ces sujets, de ces œuvres, sur Medium et bien sûr sur notre page sur le site de France Culture. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à Anaïs Ginori de La Repubblica, Emmanuel Paquette de L'Express, Olivier Tesquet de Télérama et Jean-Baptiste Souffron de Technicart. Dimanche prochain, nous parlerons de publicité à l'âge numérique, bien sûr, avec Mercedes Hera. Elle est la patronne de BETC. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et L'Alphabet Numérique, sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, assistée de David Lavaux, à la régie Pierre Monteil. Soft Power, une émission de Frédéric Martel, réalisée ce soir par Perret Legras. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.